Chapitre 17. Mission Grand Sud. Le convoi suivait depuis plusieurs heures un interminable sentier en pente douce. Un rideau de peupliers barrait l'horizon. Dès que les premiers chevaux dépassèrent les arbres, les cavaliers s'immobilisèrent.
« Stop !» cria Bill. « Un pied à terre, tout le monde !»
Les soldats descendirent de leurs montures. Les chariots cessèrent immédiatement de rouler. Seuls Bill et Jean d'Arc restèrent assis sur leurs selles. La plaine, devant eux, était traversée par un fleuve. Du moins, ils supposaient qu'il s'agissait d'un fleuve, puisque leurs regards pouvaient suivre le lent sens du courant. Ils n'avaient pourtant jamais vu de rivière aussi large. Le cours d'eau ressemblait à un serpent géant et paresseux, endormi au soleil pour y abandonner sa peau morte.
« Osman !»
cria encore Bill sans prendre la peine de sortir la longue-vue confiée par Mordelia.
« Où sommes-nous ?»
La mission Grand Sud avait quitté la ferme des Trois Corbeaux 4 semaines plus tôt, à regret, mais en emportant dans ses chariots un stock impressionnant de farine, d'œufs, de maïs et de pommes de terre, de quoi tenir un bon mois supplémentaire. Jean d'Arc avait simplement refusé d'emporter du hard dog, au motif que ses soldats devaient rester vigilants en territoire inconnu, potentiellement hostile. Bill, malgré sa fascination pour cette herbe, n'avait trouvé aucun argument pour s'y opposer. Osman déplia sa carte sous le nez de Bill, même si son chef était incapable de la lire. Qu'on puisse résumer toutes les dimensions du paysage autour de lui sur une seule feuille de papier, aussi grande soit-elle, dépassait les capacités d'abstraction du cerveau du ministre des Voyages.
« On est ici !»
tenta de préciser Osman en pointant son doigt.
« Et là, c'est la Loire !»
Bill observa encore le lit du fleuve, incroyablement large mais peu profond. Il se divisait en de multiples bras ondulant entre des bancs de sable, transformant le cours d'eau stagnant en un marécage.
« Au-delà, » ajouta le cartographe, « c'est le sud. Un autre monde. »
Un autre monde, en effet. Pendant qu'Osman se concentrait sur la carte, tous les autres membres de la délégation regardaient la rive opposée. Elle se résumait à une longue plaine d'herbes hautes, dans laquelle broutait un incroyable troupeau de chevaux. Jamais les ados n'en avaient vu autant, ni d'aussi beau. Ils restaient bouche bée devant leurs pattes fines et musclées, leurs poils brillants, leurs robes tachetées blanc et brun. De véritables pur-sang qu'ils n'avaient jusqu'à présent croisés que dans les livres. Autour des étalons, des dizaines de primitifs s'étaient rassemblés. Une ethnie nouvelle, différente de toutes celles qu'ils avaient déjà vues. Les primitifs possédaient la même taille qu'eux, la même corpulence, mais leur visage était couvert de maquillage, de longs bandeaux de couleurs rouge et blanc, courant d'une oreille à l'autre. Sur leur poitrine nue, y compris celle des filles, étaient peints les mêmes traits bicolores. Ces barbouillages étaient-ils censés effrayer les étrangers? Bill avait du mal à le croire. Les sauvages brandissaient dans leur direction des armes aussi hétéroclites que dérisoires. Gourdins, pierres taillées, fourches et filets.
Ils défendent leur territoire, précisa Osman. Au-delà du fleuve, c'est chez eux. Pas pour longtemps, affirma Bill. Jean d'Arc, rassemble ta troupe.
Bill, d'un geste qu'il espérait le plus solennel possible, posa sur sa tête la couronne d'osier tressé offerte par Chrysante.
Et toi, Osman, ordonna-t-il, trouve-leur un nom, qu'on sache quoi graver sur leur tombe quand on les aura tous massacrés.
Son rire se perdit dans la plaine. Seuls quelques rares soldats ricanèrent avec lui.
Ils habitent la Loire, fit Osman. Appelons-les les Ligériens. Parfait, ça me plaît.
Les deux armées continuèrent de s'évaluer. Les Ligériens s'étaient regroupés près de la rive du fleuve, au plus près de l'eau, sans se mouiller les pieds. Ils s'accrochaient à leurs armes rudimentaires, les agitant au-dessus de leur tête en poussant des feulements de chat sauvage. Jean d'Arc ordonna à ses hommes de remonter sur leurs chevaux, puis se tourna vers Bill.
Nous sommes prêts à charger, annonça-t-il sobrement. Et eux,
s'étonna le chef du convoi,
pourquoi ils ne montent pas sur leurs étalons? Ils ont l'air 2 fois plus rapides que les nôtres. J'ai l'impression qu'ils ignorent qu'on peut le faire, expliqua Jean d'Arc. Regarde la façon dont ils nous observent. Ils ont l'air de ne pas comprendre ce que l'on fait, perchés sur nos montures. »
Un grand sourire fendit le visage rond de Bill.
« Ces crétins nous prennent pour des centaures !»«
Je crois qu'ils ignorent ce que sont les centaures, » répliqua froidement Jean d'Arc.
« Mais t'en sais quoi ?» s'énerva Bill. « Personne n'a jamais exploré le Grand Sud. Qui te dit qu'on ne va pas découvrir des serpents qui volent, des moutons à huit pattes, des chèvres avec une seule corne sur la tête ou des araignées qui parlent, hein ? Si tu lisais davantage de livres, tu saurais ?»
Jean d'Arc se contenta de hausser les épaules.
« Nous sommes prêts à charger, » répéta-t-il. « Alors chargez !»
Tous les cavaliers s'alignèrent. Mook porta à ses lèvres le grand corps de chasse et souffla à plein poumon. L'écho fabuleux de l'instrument fit se dresser les oreilles de tous les chevaux. Florentine étira sa longiligne silhouette et éleva le plus haut possible le drapeau du grand cerf jusqu'à ce que l'étendard vert flotte au vent de la plaine. Alors, Jean d'Arc leva son bau de chêne, tenant fermement de son autre main les rênes de sa monture, puis lança d'une voix forte
« Grand bois avec moi !» « Grand bois avec moi !»
répondirent en écho tous les soldats. Le bau de Jean d'Arc s'abaissa, et les 20 cavaliers sur une même ligne se lancèrent au galop dans la pente qui descendait vers le fleuve, gagnant à chaque nouveau mètre davantage de vitesse. Ils traversèrent le gué, sans ralentir. Les sabots de leurs chevaux faisaient voler l'eau, le sable et la poussière. La terre spongieuse du marais tremblait, comme si elle était vivante et que son cœur s'emballait sous la tourbière. Les Ligériens se placèrent d'abord en position de combat, jambes écartées, armes dressées, mais dès que les cavaliers franchirent la rivière, pointant leur rangée de bœufs vers eux, ils paniquèrent. Un premier abandonna son poste, puis un autre, puis presque tous, et ils se mirent à courir de façon désordonnée dans la plaine, abandonnant leurs armes derrière eux en poussant de déchirants cris effrayés. L'armée du Nouveau Monde était entrée dans le Grand Sud sans rencontrer la moindre résistance, sans verser une goutte de sang, sans déplorer la moindre perte.
« Rattrapez-les !» ordonna Bill. « Capturez tous ceux que vous pourrez !»
Sans difficulté, les cavaliers de Jean d'Arc encerclèrent les fugitifs, les isolant d'abord, puis les forçant à se rassembler par groupes de 3 ou 4, sous bonne garde et désarmés. Quelques Ligériens plus rapides étaient parvenus à s'éloigner, mais ils ne pourraient échapper longtemps aux soldats lancés à leurs trousses. Le visage de Bill rayonnait d'une expression triomphante. Il se rapprocha de l'étendard vert que Florentine avait planté près de l'eau, pour signifier que désormais, c'était le grand cerf qui régnait au-delà de cette nouvelle frontière. Il se pencha vers la sacoche de cuir sous sa selle et en sortit un long drap blanc. Avec précaution, veillant à ne pas tomber de son cheval, il s'efforça d'accrocher le tissu à son bœuf. Quand il y parvint enfin, il l'enfonça d'un geste autoritaire dans la terre meuble de la rive. Le vent fit aussitôt claquer l'étendard blanc à croix verte.
« La verte croix est le symbole de notre reine !»
tonna Bill.
« Et sur cette terre aussi, c'est elle qui règne !»
La majorité des Ligériens avait été capturée. Ils se tenaient serrés et tremblants les uns contre les autres dans un cercle encadré par 8 cavaliers les menaçant de leur bœuf. Bill et Jean d'Arc discutaient, légèrement à l'écart.
« Décoince-toi un peu, Jean !» plaisantait le ministre des Voyages. « Tu devrais être content. Tu vas pouvoir récupérer autant de chevaux que tu veux. Jamais aucune cavalerie ne sera aussi rapide, aussi puissante que la tienne !»
Jean d'Arc ne regardait pas les pur-sang, mais les prisonniers grelottant.
Nous devons traiter avec respect ces Ligériens. Sur cette terre, nous sommes autant leurs habités qu'ils sont nos prisonniers. Bien entendu, ricana Bill. On s'en fera des copains, de gentils chiens-chiens. Regarde-les, Jean, ils grognent comme des bêtes sauvages. Ils ne savent même pas se battre. Ils sont encore plus stupides que des prémats.
Le soldat le toisa avec mépris.
Non. Ce sont des hommes et des femmes, comme nous, qui défendent leur terre et avec qui nous devons négocier, en bonne intelligence. S'ils prêtent allégeance à Marie-Lune, à nos lois et coutumes, alors ils pourront vivre en paix, commercer, et même pour ceux d'entre eux qui le souhaitent, espérer une promotion et avoir accès à l'instruction.
Bill observa le soldat, amusé, et l'applaudit des deux mains.
Chapeau! chapeau, Jeannot, t'as sacrément bien appris ta leçon. Mais c'est de la théorie, tout ça. En réalité, ces petits sauvages sont des demeurés qui nous prennent pour des dieux à quatre pattes, deux fois plus grands qu'eux et capables de galoper. Alors, autant en profiter, non? T'as pas envie d'être un dieu?
Jeanne d'Arc leva les yeux au ciel, comme excédé par tant de bêtises.
Je sais surtout que les Ligériens comprendront vite que l'on a deux jambes comme eux. Tu comptes peut-être dormir, manger, boire et même te soulager la vessie sans descendre de ton cheval?
Bill se trouva bête, il n'avait pas pensé à ça. Ou bien, il ne descendrait de son cheval que la nuit, quand ses sauvages dormiraient.
Mais tout cela lui sembla d'un coup trop compliqué.
Pourquoi Jeanne d'Arc et les autres ministres, les savants, les singes et même maintenant les soldats compliquaient-ils toujours tout?
Avec Mordelia, tout était simple. Elle avait toujours raison et Bill l'écoutait. Elle ordonnait et il obéissait. Elle était reine et il deviendrait roi, c'était bien ce que Chrysante avait dit, et Chrysante aussi, à sa façon, avait toujours raison.
Il se redressa sur ses étriers, en prenant garde toutefois de ne pas décoller les fesses de sa selle au cas où l'un des Ligériens le regarderait.
« Marquez-les tous d'une croix verte, dans le cou, sur la nuque ou l'épaule !» ordonna Bill aux soldats. « Ces sauvages aussi, comme cette terre, appartiennent à notre reine !»
Il sentait tout le poids de sa couronne d'osier sur sa tête. King Bill. Il n'avait jamais renoncé à son rêve. Sa reine lui offrirait ses terres, il en était certain. King Bill, souverain du Grand Sud. Mordelia régnerait sur le Nord. Il tiendrait le monde entre leurs quatre mains. Alors, lentement, il ouvrit les siennes et libéra le pigeon voyageur. L'oiseau s'envola à tire-d'aile, indifférent aux ethnies et aux frontières, porter à la reine la bonne nouvelle.